Alors, le sujet qui nous occupe, c'est « Cela a-t-il un sens de parler de dignité humaine ?» Au nom de quoi avons-nous l'obligation de respecter un autre homme ? Au nom de ce qu'on appelle sa dignité. Selon la définition du philosophe Paul Ricoeur, la dignité, c'est quelque chose qui est dû à l'être humain du seul fait qu'il est un être humain. Si vous voulez, je peux répéter sa définition, qui sera notre point de départ. Quelque chose est dû à l'être humain du seul fait qu'il est un être humain. Donc Paul Ricoeur, c'est un philosophe français qui est mort au début des années 2000. Alors, cette définition, on le verra, semble aller de soi pour nous. Nous sommes plutôt habitués à cette notion de dignité. Elle suppose un double constat. Tout d'abord, le constat d'une différence de l'homme. Une différence de l'homme dans la nature, une différence de l'homme par rapport aux autres êtres de la nature. Et en même temps, le constat d'une ressemblance entre les hommes. L'idée d'une commune humanité. Donc deux idées dans cette définition de la dignité humaine, celui d'une différence spécifique de l'homme et celui d'une ressemblance des hommes entre eux, d'une commune humanité. Donc je le disais à l'instant, cette spécificité de l'homme ou de l'humanité prise dans son ensemble semble pour nous aller de soi. Mais on verra que peut-être il s'agit là d'une notion caractéristique de notre culture, de notre manière de penser. On verra par exemple que le penseur Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, l'a analysé comme une sorte de préjugé ethnocentriste. J'aurai l'occasion de définir un peu plus tard de quoi il s'agit. Je l'indique simplement maintenant pour essayer de prendre un peu de recul. Finalement, cette notion de dignité, cette notion qu'il y a un respect dû à l'autre homme du seul fait qu'il est un homme, cette idée donc d'une différence spécifique de l'homme, est-elle si évidente ? Est-elle si naturelle ou n'est-elle pas plus historiquement et culturellement située que nous le croyons ? D'ailleurs, c'est pour ça que je pose la question, cela a-t-il un sens de parler de dignité humaine ? Parce qu'il me semble que dans le débat public, politique, la notion de dignité humaine est beaucoup employée et qu'elle est employée en fait pour signifier toutes sortes de choses qui peut-être n'ont pas grand-chose à voir. On l'emploie aussi bien pour défendre l'euthanasie, par exemple, que pour la critiquer, aussi bien pour dénoncer les conditions de vie des prisonniers que pour réclamer une protection accrue des victimes, aussi bien pour avoir un avis réservé sur l'avortement que pour défendre l'avortement. Vous voyez, donc d'un côté, dignité de l'embryon, d'un autre côté, dignité de la femme, d'un côté, dignité du prisonnier, de l'autre, dignité des victimes, d'un côté, dignité... du droit de mourir, droit de mourir dans la dignité, de l'autre, dignité de l'être humain inaliénable qui empêche justement précisément ce droit à mourir. Alors je ne rentrerai pas tellement dans ces questions, mais en revanche, ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit que l'argument de la dignité est repris d'un côté comme de l'autre, et donc, dans le fond, on a presque l'impression que c'est une sorte de valeur vide, une valeur passe-partout, qu'on invoquerait dans les questions morales, éthiques, voire politiques, comme si, à l'heure où il n'y a plus de consensus sur les valeurs ou sur le bien commun, j'aurai l'occasion d'y revenir, de refaire l'analyse, mais on pourrait caractériser notre époque post-moderne comme une époque où il n'y a plus de consensus sur les valeurs ou sur l'idée d'un bien commun. Et donc, comme si, à l'heure où il n'y avait plus de consensus sur les valeurs, eh bien, la dignité jouait le rôle de substitut de toutes les valeurs. Légitimant des indignations. Donc, évidemment, c'est au nom de la dignité bafouée que l'on s'indigne. Et donc, on peut se demander si, dans le fond, ce concept creux de dignité... pour l'instant, j'en reste à cette idée vague, cette idée creuse, puisque employée à toutes les sauces, dans tous les contextes, au point qu'on ne sait plus ce que ça veut vraiment dire. Donc, est-ce que cette notion vide de dignité n'est pas une légitimation de toutes les indignations, des indignations qui, dans ce fameux débat public, deviennent pratiquement affectées, jouées, creuses, au point qu'on pourrait caractériser la scène publique comme un combat des indignés et des indignations. C'est indignation contre indignation, affichage émotionnel de l'indigné qui, d'une certaine manière, remplace la pensée. Hein, l'indignation, la révolte au nom de la dignité ou de la défense de la dignité, c'est une sorte de politique du compassionnel, de politique du sentiment, mais on ne sait plus finalement au nom de quoi ou au nom de quelle valeur on s'indigne. Qu'est-ce que cette dignité au nom de laquelle on s'indigne tant ? Donc voilà pourquoi il me semble important de poser la question aussi du sens de cette notion de dignité humaine. Et il me semble que la philosophie nous sert à ça, si elle doit nous servir à quelque chose, ce que je crois quand même, c'est qu'elle nous sert à comprendre ou à retrouver le sens des mots qu'on emploie un peu comme ça, dans tous les sens précisément, sans plus trop savoir de quoi on parle. Alors, je viens de montrer qu'il y a peut-être un regard critique à avoir vis-à-vis de cette notion de dignité. J'ai dit que c'était une sorte de substitut des valeurs, un concept creux, mais par ailleurs, j'en reste pas là, puisque j'en reviens à l'indignation, à la révolte au nom de la dignité, à la révolte devant la dignité bafouée, pardonnez-moi. L'indignation n'est pas toujours une affectation, l'indignation n'est pas toujours jouée. Il y a des indignations réelles. Il est des cas où on s'indigne face à une injustice bien réelle. On peut prendre l'exemple, alors ces analyses de l'indignation, j'y reviendrai notamment en troisième partie, je les emprunte très largement à un livre que je ne saurais que trop vous conseiller, de Jean-François Mattei, qui est un philosophe contemporain qui enseigne à Nice, à la faculté de Nice, Sophia Antipolis, et qui a écrit notamment un ouvrage qui s'appelle « De l'indignation ». Donc, je reviendrai sur ces deux types d'indignation, la fausse et la vraie, si vous voulez. Mais donc, il montre qu'il y a des indignations jouées, mais il y a aussi des indignations non affectées, des indignations réelles devant des injustices réelles. Et il prend comme exemple l'indignation de Ivan Karamazov dans Les Frères Karamazov de Dostoïevski. Donc, Ivan Karamazov, c'est un personnage d'homme révolté. Et l'exemple qu'il prend, c'est la souffrance des enfants innocents. Il fait référence notamment à des procès épouvantables de parents qui auraient maltraité leur enfant. Et donc, il parle des larmes de l'enfant innocent. Et il justifie sa révolte vis-à-vis de l'existence de Dieu par cette indignation devant la souffrance de l'enfant innocent. Donc, on pourrait prendre cet exemple comme paradigme, si vous voulez, comme exemple emblématique d'une dignité bafouée et donc d'une indignation réelle devant l'injustice faite à... cette fameuse dignité, c'est-à-dire ce qu'on devrait respecter dans un homme du seul fait qu'il est un homme. Donc, je me résume. D'un côté, il y a une sorte de creux dans le concept de dignité, une sorte de valeur passe-partout et des indignations surfaites et jouées. Et d'un autre côté, cependant, quelque chose qui est réellement bafoué dans l'entorse, ou voire l'entorse, oui, faite à la dignité humaine, comme on le voit dans l'exemple que je viens de citer. Donc on va s'interroger sur le sens de la dignité et sur finalement, et se demander finalement de quoi s'indigne-t-on ? De quoi s'indigne-t-on ? Qu'est-ce qui finalement nous trouble tant ? Qu'est-ce qui est tant injuste quand on bafoue la dignité de quelqu'un ? Alors je vais faire un parcours, une fois n'est pas coutume quand même, je dois avouer assez historique. Normalement, il ne faut jamais faire ça en philosophie, on n'est pas que des historiens de la philosophie, mais il me semble que c'est une notion qui a une histoire. Et je ne suis pas sûre qu'on puisse, enfin, je n'arrive pas vraiment à en faire abstraction. Donc, dans une première partie, on va voir que la dignité humaine, dans une conception, on va dire, théologique et métaphysique classique, signifie tout d'abord l'exception de l'homme dans la nature. Elle désigne cette particularité ou cette exception de l'homme dans la nature. Ce sera la première partie. Puis nous verrons qu'il y a une rupture dans l'histoire et qu'on doit, à un moment donné, essayer de penser la dignité sans cet arrière-fond théologico-métaphysique, si vous voulez. Ça correspond à l'époque moderne, hein, les débuts des temps modernes. C'est une tentative pour penser la dignité humaine indépendamment de tout l'arrière-fond théologique qui l'avait engendré, cette notion. Donc ce sera ma deuxième partie. Et donc, on verra dans la troisième partie quel problème se pose, alors notamment aujourd'hui. Et je développerai une partie plus critique, pour finir, de la notion de dignité. On se demandera s'il faut vraiment encore s'indigner au nom de la dignité. Alors, ça paraît un peu paradoxal, mais j'essaierai de défendre mon point de vue. Donc, première partie, on parle de dignité au sens donc, de l'homme, pour désigner plutôt le fait que l'homme fasse exception dans la nature. C'est une sorte, ce qu'on pourrait appeler, une métaphysique de la dignité. D'abord, donc, dignité, étymologiquement, ça vient de dignitas en latin. la dignité ou les dignités, dignitates. Donc les dignités sont des honneurs qui sont rendus en particulier aux citoyens romains, par exemple, aux citoyens grecs, du fait de son mérite. D'accord ? On peut avoir un certain nombre d'honneurs particuliers du fait des services rendus, par exemple. Bon. Ce sens-là, hein, donc d'élection, vous voyez, de différence, est resté dans la notion de dignitaire. Hein. Être un dignitaire, c'est justement se distinguer, hein, par rapport aux autres. Donc il y a un lien en fait entre la notion de dignité au départ politiquement et l'aristocratie ou la méritocratie. En fait, c'est une sorte de paradoxe que de dire que tout le monde est digne. Hein, parler de dignité, c'est justement élire et distinguer celui qui est digne, précisément, ou celui à qui l'on doit des honneurs. Ça, on retrouve aussi l'expression dans le sens, pardonnez-moi, dans l'expression être digne de quelque chose. C'est l'avoir mérité. Hein, je suis digne ou je ne suis pas digne de tes présents, je ne suis pas digne de tes compliments, je ne suis pas digne de tant d'honneurs, etc. Donc, si l'on interroge maintenant la notion de dignité humaine, il s'agit bien donc d'une distinction, d'une différence. Une sorte d'honneur fait à l'homme du fait qu'il est un homme. Pourquoi ? Alors, on peut voir une première racine de cette idée dans la Genèse, puisqu'il y a cette phrase « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Donc, l'une des racines de la notion de dignité humaine, c'est l'idée que l'homme, créature de Dieu, n'est pas créature comme les autres créatures, mais que cette créature-là est faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Certes, c'est une image abîmée par le péché, mais cependant, après le péché, il reste une trace dans la nature déchue de l'homme, il reste une trace de cette élection divine. Et notamment, par son travail, l'homme va pouvoir participer à son salut. Hein, le travail a une dimension rédemptrice. Le travail consiste à dominer la nature. Hein, Dieu ordonne, après la chute, à l'homme de travailler et de dominer la nature. La domination, ici, ça n'est pas l'exploitation. Hein. Dominus, c'est le maître. Donc il s'agit non pas d'exploiter la nature, mais de l'ordonner, de lui donner un ordre. De l'organiser par son travail. Et donc, d'une certaine manière, de collaborer à la création, de continuer la création. Donc, non seulement l'homme a une place de choix du fait de sa ressemblance originelle avec Dieu, mais il a une place de choix du fait du rôle que Dieu lui donne dans la Genèse pour continuer la création. D'où l'ordre « Soyez féconds et multipliez, remplissez la terre et dominez-la ». C'est Genèse 1, 28. Ce qui est important aussi, c'est de remarquer que ce texte s'oppose à d'autres contextes religieux, enfin se distingue d'autres contextes religieux où la nature elle-même est divinisée. Là, on voit que la nature n'est pas divinisée, l'homme est au-dessus de la nature. Donc si il y a une dignité, ce n'est pas la dignité de la nature, mais c'est la dignité de l'homme. Hein, c'est l'homme qui ressemble à Dieu, c'est l'homme qui est... L'homme, d'une certaine manière, est plus divin que la nature. Plus semblable à Dieu que la nature. Or, c'est assez, c'est caractéristique du judéo-christianisme, cette idée. C'est pas du tout le cas dans la plupart des religions polythéistes antiques. Donc ça c'est la première source, hein, la source théologique de la notion de dignité. Parallèlement, si vous voulez, il n'y a pas forcément de c'est pas de lien de cause à effet, mais parallèlement, en philosophie, il y a aussi l'idée donc d'une noblesse particulière de l'homme par rapport à l'animal, notamment, hein, puisqu'en fait, on va le voir, le concept de dignité interroge notre rapport à l'animal, notre différence à l'animal. Donc il y a une noblesse, une distinction de l'homme et donc des égards dus à l'homme. Dans la tradition philosophique antique, donc chez Platon et Aristote en particulier, du fait de la présence de l'âme en lui. Alors, on dit parfois que Platon est le philosophe qui a inventé le concept philosophique d'âme. C'est-à-dire que, pour Platon, ce qu'on découvre chez Platon, Et chez Socrate même, hein, donc le personnage de Platon, ou Socrate tel que Platon en parle, c'est qu'il y a un souci de l'âme à avoir. Hein. Il y a une maxime éthique fondamentale qui est redite par Socrate, qui est qu'il vaut mieux subir une injustice que d'en commettre une. Qu'est-ce que ça veut dire, il vaut mieux subir une injustice que d'en commettre une? Ça veut dire qu'il renverse la morale de l'utilité pour instaurer une morale de la justice. C'est-à-dire que, évidemment, ce n'est pas très utile de subir une injustice. Hein, c'est contraire à notre intérêt, à l'intérêt du corps, ou à l'intérêt, disons, de la richesse, de l'honneur, de la réputation, à l'intérêt matériel. Mais en revanche, subir une injustice, c'est encore plus préjudiciable à l'âme. Subir une injustice, c'est préjudiciable au corps, c'est un préjudice matériel. Commettre une injustice, c'est préjudiciable à l'âme. Or, l'âme vaut plus que le corps, parce que l'âme est éternelle. Le corps, il voit la mort, la corruption, mais pas l'âme. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir en particulier, mais il y a bien d'autres occurrences évidemment, mais en particulier dans cette injonction de Socrate, hein, mieux vaut subir une injustice que d'en commettre une, l'importance de l'âme, importance métaphysique dans la vision d'un principe éternel, hein, d'un être éternel, mais aussi importance éthique. Hein, donc on voit que la notion de dignité, qui n'est pas présente hein, sous la plume de Platon, mais est là, on peut la voir ici, dans la mesure où, du coup, du fait de la présence de l'âme, nous avons une obligation morale, d'abord vis-à-vis de nous-mêmes, prendre soin de notre âme. Oui. Il faut d'abord respecter la dignité morale en nous, du fait de la présence de l'âme en nous. C'est ce que Socrate rappelait en permanence aux Athéniens. Dans l'Apologie de Socrate, par exemple, Socrate prend la parole dans son procès. Enfin, c'est le procès raconté par Platon, hein, donc c'est vraisemblablement pas le procès historique, mais c'est une reconstitution du procès de Socrate par Platon. Et Socrate, prenant la parole, s'adresse aux Athéniens en disant « Mais n'avez-vous pas honte, vous qui êtes les citoyens de la cité la plus prospère et la plus brillante, la plus connue du monde grec, n'avez-vous pas honte de prendre plus soin de votre richesse, de vos honneurs au sens matériel, de vos honneurs, de votre richesse, de votre réputation, que de votre âme? N'avez-vous pas honte de prendre plus soin de votre réputation que de votre âme? Votre âme, votre bien, votre vérité, vous n'en avez pas soin, vous n'y faites pas attention. Or, être homme, c'est d'abord et avant tout se soucier de son âme. » Voilà. Donc l'idée d'une dignité qu'on se doit d'abord, enfin d'un respect que l'on se doit d'abord à soi-même, du fait de la dignité que nous confère la présence en nous de l'âme. Aristote reprend cette idée de l'âme. Donc Aristote, c'est un disciple immédiat de Platon. Il a suivi l'enseignement de Platon pendant des années et puis il s'est largement aussi distingué de la pensée de son maître. Mais il y a aussi l'idée d'âme chez Aristote. L'âme, c'est un principe de vie pour les Grecs. Hein, c'est ce qui anime le corps, c'est ce qui lui donne mouvement, ce qui lui donne vie. Mais ce qu'Aristote va dire, c'est que dans le fond, en l'homme, il y a une âme spécifique. Donc nous avons trois types d'âme, en gros, trois parties de l'âme. Bon, on peut discuter là-dessus, sur l'unité de ces trois parties, etc. Mais en gros, il y a un premier niveau, si vous voulez, qui est le niveau de l'âme végétative, on l'a appelé comme ça après dans les commentaires, c'est-à-dire que nous partageons donc avec tous les êtres vivants, hein, tout ce qui se meut a une âme d'une certaine manière. Hein. Je vous ai dit, c'est un principe de vie, un principe de mouvement. Donc l'âme dite végétative, elle existe aussi chez les plantes, les végétaux. Il y a l'âme sensible ou sensitive, ensuite, deuxième niveau de l'âme, qui est partagée par les animaux et les hommes. Donc tous les êtres sensibles ont ce type de mouvement, hein, dû à la perception, la sensibilité, voire certains types de mémoire. Mais seul l'homme a l'âme spirituelle. Hein. L'esprit ou la raison qui lui permet de connaître, notamment. Et puis aussi de penser son action, hein, d'être libre, d'être vertueux. Donc, seul l'homme a une partie de l'âme qu'on va appeler âme spirituelle ou âme intellective, enfin bon, selon les traductions, l'intellect, qui distingue donc l'homme de l'animal. Donc, là encore, l'idée de dignité, vous voyez, elle a une source ici dans une tradition anthropologique et métaphysique, une vision de l'homme et puis même une vision plus générale de l'être qui va penser la notion d'âme. Un dernier point, donc, pour ce rapide parcours historique à la recherche des sources de la notion de dignité, même à l'époque moderne, l'époque moderne, les temps modernes, début à la Renaissance, 16e, 17e siècle, donc la vision de la nature évidemment change, notamment du fait du progrès de la science. Et on voit, ça crée évidemment un bouleversement dans l'esprit des hommes. On n'a plus du tout la même vision de la nature. Et donc, la nature n'est plus vue comme au Moyen-Âge, comme une création. Enfin, même s'il peut y avoir une croyance en la création, on voit bien que la nature ne parle pas directement de Dieu. Cette idée, par exemple, elle se retrouve fortement dans les pensées de Pascal. Donc, Pascal, qui est un auteur chrétien, mais qui par ailleurs donc, est scientifique, et donc il voit bien qu'on ne peut pas directement, si vous voulez, ouvrir le livre de la nature, regarder la nature comme la présence de Dieu, immédiatement. Il parle d'un Dieu, de Dieu comme d'un Dieu caché, Deus absconditus, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression, Dieu est un Dieu caché. Vous voyez, contrairement aux anciens ou contrairement aux médiévaux, il ne suffit pas d'ouvrir le livre de la nature pour voir Dieu. Donc, on peut dire que c'est l'une des caractéristiques de la pensée moderne, c'est que Dieu n'est pas directement visible dans la nature. Et donc, la place exceptionnelle de l'homme dans la nature n'est pas non plus si évidente que cela. Donc, Pascal est un penseur qui va insister sur la misère de l'homme, sur la petitesse de l'homme. Il y a notamment donc, cette pensée sur les deux infinis, ou parce qu'elle montre que l'homme est un milieu entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Il est perdu. Il y a des découvertes astronomiques importantes à l'époque, donc on découvre l'immensité, le caractère infini en fait, de l'univers, et donc l'homme est perdu dans l'infiniment grand et entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Donc que faire à ce moment-là de la dignité humaine ? Eh bien, la dignité humaine est encore dans la pensée. Il y a un fragment donc, des pensées de Pascal, qui est célébrissime, où Pascal développe l'image du roseau pensant. Il dit l'homme est un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Donc là, ici, la métaphore du roseau, c'est pas comme chez La Fontaine, c'est pas pour signifier une sorte de force dans la souplesse. Le roseau, c'est l'être faible. Il dit un peu plus tard, une vapeur suffit pour le tuer. Donc l'homme est presque rien. Tout est dans le presque, bien sûr. L'homme est presque rien. Si on regarde les choses sous l'angle matériel, à l'égard de l'immensité de l'univers matériel, l'homme n'est qu'un point à l'égard de l'infini. Et un point à l'égard de l'infini, c'est presque le néant. Donc, l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Et plus loin, il dit... j'ai trop fait confiance à ma mémoire, mais ça va me revenir. Il dit... Par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point, mais par la pensée, je le comprends. Donc il y a un jeu de mots magnifique là, je répète, il faut goûter quand même la langue, enfin la formule, le sens de la formule de Pascal. Par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point. Me comprend au sens physique, d'accord, m'entoure, m'engloutit. Donc par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point, mais par la pensée, je le comprends. Juste avant, il dit, l'univers aurait beau me tuer, la force est du côté de l'univers, la force est du côté du monde. Le monde peut me tuer, mais il ne saura pas qu'il me tue, alors que moi, je saurais qu'il me tue. D'accord ? Donc toute notre dignité, je voulais en arriver là, la fin de la pensée, la fin du fragment, toute notre dignité consiste donc en la pensée. Et c'est de là qu'il faut nous relever et non pas de la volonté d'accumuler de la force. Alors ça, c'est moi, par contre. C'est pas Pascal. Il dit « Toute notre dignité consiste donc en la pensée. » Ça, c'est Pascal. Et après, moi, je commente, parce que je me souviens plus exactement de la fin, mais il dit « C'est de là qu'il faut nous relever. » Ça, c'est lui encore. Mais après, ça, c'est moi. Et pas de l'accumulation de force. Ça se voit tout de suite que c'est pas Pascal, mais moi. Donc, on aura beau accumuler des terres, on aura beau augmenter notre force. C'est pas là-dessus qu'on peut rivaliser. Notre dignité consiste simplement dans la pensée, dans la conscience de notre misère, de notre condition. Donc, exception de l'homme dans la nature. C'est l'idée maîtresse de cette première partie. Origine théologique, origine métaphysique dans la philosophie antique, et même avec la rupture que constitue la modernité dans la vision de la nature, hein, la rupture, disons, entre vision théologique de la nature et vision scientifique de la nature, eh bien, on maintient chez un penseur comme Pascal notamment, chez un penseur chrétien comme Pascal notamment, cette distinction ou cette différence de l'homme qui réside uniquement dans sa faculté de penser. Donc on a vu un lien entre la notion éthique de dignité, qui implique donc une certaine manière d'agir envers les hommes, on a dit un respect dû à l'homme, du seul fait qu'il est un homme. Donc cette notion éthique a un arrière-plan métaphysique et théologique. Métaphysique, peut-être ça pose un peu problème. Théologique, ça va, hein, c'est donc un discours... une pensée de Dieu qui repose sur des textes révélés, même si toute théologie n'est pas révélée, mais en gros c'est ça. Métaphysique, donc c'est une réflexion sur l'être et sur le principe de toute chose, hein, sur le principe du monde. Donc par exemple ici, l'âme comme principe de l'être de l'homme. Donc un arrière-plan métaphysique et théologique pour penser cette notion éthique, morale, de dignité. Donc je crois que ce qui est important de se demander, maintenant qu'on a posé cet arrière-plan, c'est de se dire, est-ce qu'on est obligé, pour parler de dignité, de maintenir cet arrière-plan ? C'est-à-dire, à l'heure où il n'y a pas consensus, d'accord, sur cette vision de l'homme, à l'heure où il n'y a pas consensus religieux, peut-on encore parler de dignité ? Et au nom de quoi respecter l'autre homme ? Oui, c'est une question très historique. Hein. Ce n'est pas vraiment une question philosophique, c'est une question historique. Mais si je dois retraduire les choses de manière plus philosophique, je dirais, est-ce que l'homme est digne ou a une dignité parce que Dieu lui a donné ? Ou est-ce qu'il a une dignité qui lui vient de lui, hein, en lui-même, tel qu'en lui-même, hein. Si on met la question de Dieu entre parenthèses, est-ce qu'il reste encore une dignité de l'homme ? Est-ce qu'on a les moyens humains, sans révélation théologique, par exemple, est-ce qu'on a des moyens humains, rationnels, simplement, de scruter ce qui fonde la dignité d'un homme, d'accord ? Voilà, si je décris un homme d'une manière qui soit la plus neutre possible, sans postulat métaphysique ou religieux, si je le décris tel qu'il est, est-ce que vraiment je peux trouver la dignité ? Voilà. Or, il y a quand même des questions à se poser. Parce qu'on peut faire des descriptions terriblement indignes de l'homme. On peut évidemment se vautrer dans l'indignité même. Hein. Jean-François Mattei fait référence à certaines œuvres d'art. Je n'ai pas vu ce spectacle, mais un spectacle qui donc, a été donné au Théâtre de la Ville à Paris. Donc, vous savez, c'est un lieu de... à Paris, c'est un théâtre d'avant-garde, le Théâtre de la Ville, où il y a beaucoup de danse. Et il raconte qu'il y a eu un ballet, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, qui a beaucoup scandalisé. Où donc on voyait les danseurs nus se livrer à toutes sortes de pratiques corporelles, hein, j'ose à peine vous dire quoi, devant les spectateurs, ils urinaient, ils éructaient, ils injuriaient. Bon. Et ça a fait scandale, évidemment, c'était peut-être le but. Et il y a une critique élogieuse, bien sûr, dans Libération ou je ne sais où, et disant qu'enfin on voyait... que l'homme n'était pas décrit comme digne et debout, mais dans sa pure animalité. Et ça, c'était bien. Pourquoi pas, d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Mais donc, il est vrai qu'on peut brosser un portrait très indigne de l'homme, hein, dans l'art, mais aussi, évidemment, il suffit d'ouvrir un livre d'histoire et de voir de quel crime nous sommes capables. Alors, cependant, donc, sur quoi fonder, malgré tout, ce concept de dignité ? Alors, on a dit, la faculté spécifique de l'homme qui le distingue, c'est la pensée, et on va le voir, c'est aussi la liberté. La pensée, tout d'abord. On peut trouver cette interrogation chez Descartes. Descartes ne va pas fonder sa philosophie. La découverte de la pensée, en tout cas, la vision de l'homme de Descartes, n'est pas fondée sur la théologie. C'est-à-dire que d'abord, Descartes se découvre sujet, et ensuite, la question de Dieu vient. Donc, Descartes, vous le savez, c'est le philosophe de la certitude de soi. Je pense, donc je suis. Nous avons la certitude de penser, et donc nous avons la certitude de notre âme. d'une certaine manière. Enfin, même absolument. Nous avons la certitude de notre âme. Autant pour Descartes, le corps, pas certain, en tout cas au début de sa réflexion. C'est pas sûr qu'il le dise vraiment sérieusement, mais le corps est beaucoup moins certain que l'âme. Nous sommes certains d'avoir une âme en tant que sujet, subjectivement. Le problème, c'est l'âme des autres. Qu'est-ce qui m'assure que l'homme devant moi, là, est vraiment un homme ? Et qu'il n'est pas, dit Descartes, uniquement un automate, un robot, si vous voulez. On fait des robots très perfectionnés aujourd'hui. En tout cas, on le voit dans la science-fiction, on n'est sûrement pas loin de robots qui ressemblent à s'y méprendre à des hommes. Donc, qu'est-ce qui m'assure qu'autrui n'est pas qu'un automate très très bien fait, hein, avec une apparence, une peau humaine. L'expression qu'il emploie, c'est qu'est-ce qu'il m'assure que quand je regarde par la fenêtre, les hommes qui passent ne sont pas que manteaux et chapeaux. Hein. Comment je sais qu'il y a une âme sous cette enveloppe corporelle ? C'est très important, hein, parce que sinon, si ça n'est que des automates ou si ça n'est que des animaux améliorés ou à apparence d'homme, évidemment, encore une fois, il n'y a pas de respect qui leur soit dû d'une certaine manière. Je ne vais pas les considérer, disons, comme sujets, semblables à moi, mais simplement comme objets. Je vais pouvoir m'en servir. Donc, pour Descartes, la réponse, c'est le langage. C'est parce qu'autrui me parle et que lorsqu'il me parle, il m'exprime non seulement des émotions, ou disons des sensations, ce que pourrait faire l'animal. Hein, l'animal exprime un certain nombre de sensations. D'accord, cri de douleur, cri de plaisir, etc. Mais il n'exprime pas des pensées. Le langage humain seul exprime des pensées. Donc j'ai un signe extérieur de la présence de l'âme dans l'autre. Je n'ai pas accès à son âme. Non, ça c'est certain. Pour Descartes, j'ai accès qu'à la mienne. Mais je l'entends parler, je vois que son langage exprime des pensées. Et exprimant des pensées, je déduis qu'il doit bien avoir une âme à l'origine de ses pensées. D'accord ? Donc j'ai accès à l'âme de l'autre, à cette faculté spécifiquement humaine qui est la pensée ou l'âme, par l'intermédiaire du langage, donc de signes extérieurs de pensée. Donc voilà, une faculté spécifique, mais vous voyez, qui pose déjà problème, la pensée donc comme faculté spécifique qui distingue l'homme de tout automate ou de tout animal, mais ça pose déjà problème parce qu'on voit qu'on n'y a pas un accès direct. Donc il faut quand même un raisonnement. Il y a quand même un raisonnement. La dignité de l'autre, le caractère de sujet de l'autre est problématique chez Descartes à un moment donné. Il faut un raisonnement. Donc on voit bien derrière la possibilité de nier cette âme-là. On peut ne pas le faire, ce raisonnement. Hein, et faire comme si il n'y avait qu'un automate ou qu'une machine ou qu'un corps d'animal sous l'apparence d'un homme. C'est ce qui se passe dans l'esclavage ou c'est ce qui se passe dans l'exploitation de l'homme par l'homme, etc. Donc première faculté, la pensée. Deuxième faculté, je disais, la liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté ? C'est la capacité d'être soi-même à l'origine de son action, hein, agir par choix et non pas par instinct, comme le font justement les animaux. Donc les animaux ne choisissent pas, le carnassier ne choisit pas de chasser, le poisson rouge ne choisit pas de tourner dans le bocal et l'abeille de butiner. L'homme, lui, en partie, évidemment, à des actions déterminées. Hein. Il appartient à la nature, il a un corps, mais il a aussi la capacité d'initier par lui-même son action, faculté de libre arbitre, de liberté. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va reconnaître cette faculté en l'autre ? Là encore, on peut facilement l'éprouver en nous-mêmes, encore que, hein, on pourrait se dire qu'on croit parfois un peu trop facilement être libre, mais disons qu'on peut quand même facilement éprouver qu'on est libre. On a conscience de notre décision, on a conscience que les choses auraient pu se passer autrement si on n'avait pas pris la décision, mais chez autrui, c'est beaucoup plus problématique. Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît la dignité d'une liberté dans l'autre homme ? Alors, c'est le philosophe Kant, au XVIIIe siècle, qui s'est penché vraiment sur la question. Donc, pour Kant, la définition de la liberté, c'est l'autonomie morale. Alors, je ne rentre pas trop dans les détails, c'est une réflexion très complexe, je trouve, mais juste quelques points, et puis on va arriver à la notion de dignité, au concept de dignité tel que Kant l'a défini. Donc l'autonomie, c'est la faculté de se donner sa propre loi. Hein, c'est étymologique, autonomos, se donner sa propre loi. Et donc pour Kant, en fait, seul un être rationnel, doué de raison, si vous voulez, est capable d'autonomie. On n'est pas tout le temps rationnel. C'est-à-dire, il y a des moments où, quand on prend des décisions, on n'est pas 100% rationnelle. Par exemple, quand on fait une décision par calcul, hein, si je dis je vais bien travailler à l'école pour gagner correctement ma vie, ou si je dis que je ne vais pas mentir pour éviter d'être puni, je ne suis pas encore totalement autonome. Dans le fond, je suis une logique, dans le calcul, je suis une logique qui m'est imposée par les conditions extérieures, hein, disons de la société, ou par les conditions de mon éducation, etc. D'accord ? Quand je fais un calcul, je ne suis pas vraiment libre et autonome. C'est ce qu'il appelle l'impératif hypothétique. Bon, ça c'est vocabulaire technique. Là, on est vraiment libre, c'est dans l'impératif catégorique, c'est-à-dire inconditionnel. C'est pas tu dois pas mentir pour ne pas aller en prison ou ne pas être puni. C'est tu ne mens pas. Tu ne dois pas mentir. C'est le devoir par lui-même. Hein. Pour Kant, être vraiment libre, c'est pas agir conformément au devoir pour des mobiles plus ou moins obscurs ou pour des calculs. C'est agir par devoir. Par simple obligation due à la représentation de la loi morale, ce qu'il appelle la loi morale. Donc cette loi morale, ce devoir, ne pas mentir, par exemple, ne pas tuer, est inscrit dans l'être humain, du seul fait qu'il est un être humain doué de raison. Et ils disent que c'est un fait de la raison. Cette loi morale, elle est en nous, et ça, c'est un fait. Et il ne le déduit pas par des démonstrations, etc. Il le constate comme un fait de la raison. Il dit par exemple, le voleur qui transgresse, il sait qu'il a transgressé. Donc ce n'est pas parce que la loi morale est en nous que bien sûr nous la respectons. D'accord ? Mais en revanche, c'est parce qu'elle est en nous que nous savons que nous la transgressons lorsque nous la transgressons. Et pour lui, ça c'est un fait qui est absolument fondamental, puisque lorsque nous choisissons d'agir selon la loi morale, nous sommes profondément libres, puisque en tant qu'être raisonnable, nous nous donnons une loi qui est une loi de la raison. Eh bien, qu'est-ce qui va faire que je reconnais autrui comme digne, comme porteur de la dignité humaine, de cette différence de l'homme ? Eh bien, c'est la présence en lui de la loi morale. C'est la présence en lui de cette capacité à agir en homme raisonnable, en homme qui a une raison. Et Kant dit que le respect de la loi morale en nous implique un respect pour tout autre être raisonnable, capable lui aussi d'autonomie, de liberté. Et c'est ainsi qu'il va introduire la notion de dignité humaine dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Donc il y a un texte sur la notion. Il dit que les choses ont un prix, elles sont échangeables, d'accord ? Elles ont donc une valeur relative les unes par rapport aux autres, mais les êtres humains ont une dignité. Les choses ont un prix, mais les êtres humains ont une dignité. Donc avoir une dignité, ça veut dire ne pas être échangeable, hein, ne pas être évaluable de manière relative. Donc les hommes ne sont pas évaluables les uns par rapport aux autres. Les hommes ont chacun une valeur incommensurable. La dignité humaine, c'est dire que chacun est irremplaçable, incommensurable. Et c'est pour ça, dit-il, que les choses sont désirées, mais les humains sont respectés. Alors, il donne cette loi, une reformulation de la loi morale, en fonction de la notion de dignité, agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin, jamais simplement comme un moyen. Alors, ça, c'est une formulation très connue de Kant, hein, je peux la redire si vous voulez. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Alors on peut s'arrêter sur deux points. La fin d'abord. Donc traiter. Bien sûr, il arrive qu'on traite les autres êtres humains comme des moyens. Il arrive qu'on s'en serve. Mais ça ne doit jamais être fait uniquement ou dans l'oubli que l'être humain est aussi une fin. D'accord ? Donc, par exemple, le travail implique une certaine hiérarchie. Mais donc, il est vrai qu'on peut utiliser le travail d'autrui à nos propres fins. Mais pour autant, il ne faut jamais oublier que c'est le travail d'un être humain qui a une dignité incommensurable. Donc, il faut le traiter comme moyen, mais aussi toujours comme une fin. Par exemple, donc, on devra lui donner un salaire décent, le remercier, lui parler, hein, ne pas le traiter comme une machine, etc. Avoir égard à sa dignité d'être humain, c'est jamais le réduire à ce qu'il peut m'apporter, en fait. Et donc, dire que traiter l'autre être humain toujours comme une fin et jamais comme un moyen, c'est évidemment montrer qu'il n'est pas échangeable. D'accord ? Il est vrai que les salariés sont échangeables, mais pas tout à fait. En tout cas, si on les traite uniquement comme des êtres échangeables, on ne les respecte pas dans leur dignité. Il faut aussi, en même temps, toujours montrer qu'il y a quelque chose qui n'est pas échangeable, qu'il y a quelque chose d'unique dans le salarié que l'on emploie. Ce serait ça, traiter vraiment un salarié en être humain digne. Et puis, bien sûr, cette loi morale, vous avez remarqué, il s'agit d'agir en traitant l'humanité toujours comme une fin et jamais seulement comme un moyen, dans la personne d'autrui et dans notre propre personne. Hein, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec Platon, c'est-à-dire que reconnaître la dignité humaine, c'est d'abord la reconnaître dans notre propre personne. D'abord, hein, donc, par exemple, la prostitution, voyez, à la lumière de cette maxime, si la prostitution, disons, forcée, pour être consensuelle, après la prostitution volontaire, c'est un autre problème, mais la prostitution forcée, enfin non, ça ne va pas, pardon, parce que du coup, la prostitution forcée, c'est l'utilisation d'autrui. Bon, disons, la prostitution volontaire, en ce sens, ne serait pas vraiment digne d'un homme, même si donc il y a un consentement, vous voyez, le consentement ne suffit pas pour dire qu'on agit vraiment en être humain digne, parce que dans le fond, on s'utilise soi-même comme moyen. Et s'utiliser soi-même comme moyen, même avec un consentement libre, ça n'est pas être vraiment libre. Oui, donc on peut consentir parce qu'on a besoin d'argent ou parce qu'on a envie de s'amuser un peu, même si c'est peut-être pas très amusant, mais bon, je le dis parce qu'on entend parfois ce genre d'argument. Hein. Mais voyez, malgré tout, le consentement n'est pas profondément libre. Une action profondément libre, ça n'est pas un calcul de cette sorte, c'est traiter soi-même toujours comme une fin et jamais seulement comme un moyen. Dernier point intéressant, c'est qu'on retrouve cette idée de commune humanité. C'est-à-dire que dès lors que je reconnais la dignité en moi-même, je la reconnais en autrui, et dès lors que je la reconnais en autrui, je la reconnais en moi-même. Il y a une sorte de société des êtres rationnels chez Kant, une société qui n'est évidemment pas une société réalisée, hein, mais une société idéale des êtres rationnels. Il appelle ça... Bref, je ne me souviens plus de la formule. Alors, j'en arrive à la fin de cette deuxième partie et on va pourtant soulever un problème. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on peut, il est vrai, penser la notion de dignité en faisant une description de l'homme en lui-même, à travers notamment ces deux caractéristiques spécifiques que sont donc, la pensée et l'autonomie, au sens kantien, c'est-à-dire la liberté de l'être doué de raison. Donc, la dignité humaine est définie par certaines facultés. Que fait-on de ceux qui en sont dépossédés ? Que fait-on de ceux qui, parmi les hommes, sont sans pensée, ou soit parce qu'ils sont trop petits, les nourrissons, soit parce qu'ils sont trop vieux, les vieillards séniles, disons, soit par accident de la vie. Que fait-on de ceux qui ne sont pas vraiment autonomes, qui ne sont plus capables de penser leur action en fonction de la loi morale, qui sont totalement... soit dont le jugement est altéré, soit dont la liberté est aliénée par toutes sortes de déterminismes. Donc, par exemple, justement, la jeune femme qui va décider de se prostituer, ou la jeune femme qui va finir par aimer le proxénète qui lui donne de quoi vivre, ou le drogué qui veut absolument sa dose. Bon, donc on voit bien évidemment là qu'on est dans des cas d'absence d'autonomie au sens kantien. Et puis l'autonomie au sens même courant. Hein, donc il y a des cas de forte dépendance, de totale dépendance, d'incapacité de penser. Donc si la dignité réside dans les facultés, est-ce qu'on peut encore parler de dignité ou d'une vie digne, digne d'être humaine pour de tels cas ? Et je crois que c'est le problème qui se pose peut-être de manière assez brûlante dans l'actualité et puis même plus largement la pensée... de notre époque, où on a finalement cette tentation de définir ce que serait une vie humaine digne. Est-ce qu'on a le droit de définir ce que serait une vie humaine digne ? Est-ce que la dignité est conditionnelle ? Est-ce qu'on doit dire que la dignité humaine est une notion conditionnelle, conditionnée par un certain nombre de facultés, de propriétés qu'il faudrait remplir. Alors, en guise de transition, pour vous faire vraiment percevoir le problème, mais il me semble que, enfin, j'espère que vous commencez à le percevoir, mais on voit cette question qui travaille la science-fiction. Et pas seulement aujourd'hui, donc soit dans les séries télévisées, je ferai référence à une série télévisée en troisième partie. Oui, on est parti très sérieux, mais on va finir un peu plus léger quand même. Mais il y a un film qui est déjà un peu ancien, qui date de 1997, qui s'appelle Bienvenue à Gattaca. Je pense que c'est un classique du cinéma américain, enfin un classique du cinéma grand public, hein, c'est pas un film d'auteur. Mais donc c'est un film d'Andrew Niccol, je suis allée chercher ça pour être à peu près précise. Et donc, pour le dire vite, donc c'est se situer dans un hypothétique futur, je ne sais pas exactement, à l'époque, ça devait être, on était en 97, donc c'était peut-être dans les années 2015, justement, 2014-2015. Et donc, les hommes donc, ont pratiquement remplacé la procréation naturelle, donc la procréation est totalement contrôlée. Et donc, on engendre des êtres parfaits, pratiquement parfaits, donc on sélectionne les gènes et... grâce à la science, à la technique, on engendre des êtres génétiquement modifiés et sélectionnés en fonction de leur capacité, donc aussi bien physique qu'intellectuelle. Ce qui fait qu'il arrive quand même que la nature réussisse quand même à reprendre quelquefois ses droits, et donc certains individus naissent naturellement, et ce sont les parias de la société. Et donc, il y a une hiérarchie qui se crée de fait. Et donc, les tâches subalternes sont assurées par ces parias. Donc, on a le cas du héros qui est né naturellement. Ses parents... Donc, comme on prévoit... Parce que dès la naissance des bébés, on va lire leur carte génétique, on prévoit leur avenir. Donc, on prévoit qu'il a tant de chances de mourir à tel âge, d'avoir un cancer, etc. Et donc, du coup, ses parents sont horrifiés. Et donc, pour le deuxième, ils veulent surtout lui éviter au bébé tous ses malheurs. Vous voyez, une vie si terrible, si malheureuse, avec tant de risques, vaut-elle la peine encore d'être vécue? Si on peut l'éviter... Donc, il y a une réplique extraordinaire des parents. Le médecin leur dit... Bon, vous voulez ce qu'il y a de mieux pour votre enfant? Bien sûr, nous voulons ce qu'il y a de mieux pour notre enfant, nous voulons lui éviter cette souffrance. Donc pour le deuxième, on va passer par la technique. Bon. Et donc le deuxième naît, et puis c'est un enfant extraordinaire. Et puis je vous laisse découvrir la suite. Il y avait peut-être une revanche du paria sur l'être génétiquement modifié. Ce qui donc nous amène, alors c'est donc pour vous faire comprendre le problème, c'est-à-dire, vous voyez, là on a une humanité qui décide de qui peut naître et de ce que serait une vie vraiment digne. Une vie vraiment digne, c'est une vie super puissante, quoi. C'est une vie, parfaitement lisse aussi, sans risque, dégagée de tout imprévu, et où l'être humain est particulièrement performant. Ce qui m'amène donc à penser la notion de dignité aussi comme une notion problématique dans ma troisième partie. Tout d'abord parce que c'est une notion qui exclut. Et puis ensuite parce que c'est une notion, on le verra, qui inclut trop. Alors d'abord une notion qui exclut. Alors dans la mesure où, bien sûr, je précise, c'est plus la dignité humaine dont il est question, mais c'est la dignité des facultés humaines. Il faut peut-être que je précise ça. C'est problématique, cette notion, par rapport à son extension. Quand on parle de dignité, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de dignité de l'homme parce qu'il est homme? Ou est-ce qu'on parle de la dignité des facultés qui sont dans l'homme? Si on parle de la dignité des facultés qui sont dans l'homme, c'est problématique du fait de l'extension. Trop large ou trop étroite? Trop étroite, d'abord. Donc, une notion qui exclut. Est-ce qu'on peut exclure au nom de la dignité humaine? Alors, j'ai fait allusion à Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue, qui est mort donc il y a peut-être 4-5 ans, ou fin des années 2010, je dirais 2009 ou 2010, donc c'est une pensée encore très vivante pour nous. Et donc Lévi-Strauss avait développé ce concept d'ethnocentrisme, auquel j'ai fait allusion, donc j'y reviens un petit peu plus en détail. En fait, dans les années 50-53, je crois, l'UNESCO commande à Lévi-Strauss une brochure sur le racisme. Donc, il n'est pas le seul à avoir répondu à la commande. Et donc, il commence son texte, qui s'appelle « Race et histoire », qui est publié maintenant et qui se trouve très facilement, en disant qu'il y a une tendance naturelle en l'homme à exclure son semblable, enfin, à exclure l'autre homme. Justement, pas son semblable, mais celui qui ne lui ressemble pas tellement. Donc, le racisme, c'est l'exclusion de l'autre homme au nom de caractéristiques biologiques, la couleur de la peau par exemple. Mais elle dit qu'il y a un autre facteur d'exclusion, outre le racisme, c'est l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, c'est l'exclusion de l'autre homme en dehors des limites de l'humanité, considérer que l'autre homme n'est pas vraiment un homme, que l'autre homme est un barbare, un sauvage, du fait des différences culturelles, pas seulement biologiques, mais culturelles. Parce que, ethnocentrisme, nous avons tendance à juger de la culture de l'autre à partir de nos propres références culturelles. Donc, ce qui ne correspond pas va être relégué à l'extérieur de l'humanité. Donc, il fait référence aux Grecs qui considéraient comme barbares ceux qui ne parlaient pas la langue, et puis plus récemment au mythe du bon sauvage, ou même à l'idée de sauvage dans les sociétés plus récentes. Et donc, tout le travail de l'anthropologue, ethnologue d'abord, ethnologue, donc celui qui va étudier avec un regard qui se veut le plus neutre possible, observer en immersion la culture de peuplade qui nous semble extrêmement éloignée, de sociétés qu'on appelait archaïques ou primitives, sachant qu'il faut évidemment enlever tout jugement de valeur de cette notion. Et il va montrer que précisément ceux qu'on prend pour des sauvages sont des sociétés extrêmement cultivées, avec des cultures très complexes. Mais parce que nous ne les comprenons pas, nous les considérons comme des sauvages. Hein. Nous les considérons comme des êtres proches de l'animalité, inscrits dans la nature plus que nous. Donc au nom de cette critique de l'ethnocentrisme, Lévi-Strauss va dire que la pensée universaliste des droits de l'homme n'est pas une solution satisfaisante. Bon, il dit pour lutter contre le racisme ou l'ethnocentrisme, donc la tendance naturelle de l'homme à exclure l'autre homme du fait de ses différences, il y a la pensée universaliste des droits de l'homme, dire tous les hommes sont égaux, tous les hommes sont semblables, pensée issue donc de notamment la réflexion kantienne. Mais pour lui, du coup, ça oblige à avoir une définition très abstraite de l'homme, c'est-à-dire l'homme est un être de raison, l'homme est un être de liberté. Or, cette définition-là n'est pas partagée par toutes les cultures. Donc en fait, Lévi-Strauss est critique de la pensée des droits de l'homme parce que pour lui, l'homme des droits de l'homme, c'est pas l'homme en général. L'homme des droits de l'homme, c'est l'homme européen occidental. Oui. Donc l'homme des droits de l'homme n'est pas forcément reconnu par les Papous ou les tribus amazoniennes ou les tribus africaines. Et d'ailleurs, au nom des droits de l'homme, alors c'est là où c'est extrêmement problématique, hein, et je ne me risquerai pas à donner une solution, mais au nom des droits de l'homme, on interdit, on condamne certaines pratiques culturelles, loin de chez nous, au nom de cette notion de droits de l'homme qui, pour Lévi-Strauss, est en fait culturellement très marquée, au nom de la dignité humaine. Donc lui, il veut remplacer, vous voyez, la solution contre le racisme et l'ethnocentrisme, la solution donc, de la pensée universaliste, définition abstraite de l'homme, il veut la remplacer par l'anthropologie structurale, la discipline qu'il va fonder, c'est-à-dire qui consiste à observer la culture de l'autre en ethnologue, donc sans jugement de valeur, sans aucun jugement de valeur, et puis ensuite à repérer un certain nombre d'invariants, mais toujours à partir de l'observation de terrain, pas à partir d'une idée abstraite de l'homme qu'on aurait comme ça. Il va d'abord faire des observations de terrain des différentes sociétés, puis ensuite il va essayer de repérer des invariants. Mais Lévi-Strauss reste dans un certain relativisme culturel. Toutes les cultures se valent, on ne peut pas juger d'une autre culture, on ne peut pas juger des pratiques culturelles d'une autre culture. Alors évidemment, ça pose problème pour des pratiques comme l'excision, par exemple. Qu'est-ce qu'on dit ? Vous voyez ? Je ne dis pas que Lévi-Strauss a défendu l'excision. Je ne sais rien, en fait. Je ne pense pas qu'il l'ait non plus défendu. Hein. Je ne sais pas s'il en a parlé spécifiquement. Mais vous voyez, pour vous faire comprendre le problème, on dit qu'il ne faut pas juger d'une autre culture. Oui, mais pour des pratiques comme celle-là. Vous voyez ? La domination de la femme, etc. Que dire ? Bon. Mais en tout cas, donc, la critique est intéressante. Dans la notion de dignité humaine, il y a une sorte d'universalisme abstrait. Et dans le fond, c'est pas aux hommes, en tant qu'ils sont des hommes, qu'on rend hommage, mais c'est à une certaine vision de l'homme. Donc c'est une idée qui exclut. J'ai dit aussi donc, peut-être une idée qui inclut, parce que du coup, elle exclut des hommes, mais elle inclut peut-être la notion de dignité, en tout cas il y a des tentatives dans la pensée contemporaine en ce sens, elle inclut peut-être l'animal, une dignité de l'animal. Alors, À quel titre ? Je n'ai pas le temps de vraiment développer ça, mais je vous donne quelques références. Alors, on voit cette idée apparaître chez Bentham, le philosophe anglo-saxon utilitariste au XVIIIe siècle. Hein, donc, chez Bentham, il y a une sorte de réhabilitation des droits de l'animal, puisqu'il dit que l'animal est un être sensible. Et donc, il va rajouter, pour définir la dignité, et donc l'idée de sujet de droit, en fait, hein, la notion de sensibilité. L'animal est sensible, donc il peut souffrir. Donc, nous n'avons pas le droit de le tourmenter. On peut le faire mourir, puisqu'il n'a pas conscience de sa mort, donc ça ne le fera pas spécifiquement souffrir, en tout cas pas plus que sa mort naturelle dans les conditions de la nature. En revanche, le tourmenter, non. Donc, alors j'ai relevé une citation qui est extraite de l'introduction au principe de morale et de législation, donc de Bentham. Les animaux ont été, par l'insensibilité des anciens juristes, dégradés au rang de choses. Les animaux ont été dégradés au rang de choses. Donc, il est hors de question de traiter les animaux comme des choses. Ils ont une certaine forme de dignité. On sait, par ailleurs, qu'il y a eu une déclaration des droits de l'animal en 1990. Je trouvais ça, je ne le savais pas, en fait, hein, mais en préparant cette conférence. Donc, il existe une déclaration des droits de l'animal. Bon, je ne sais pas quelle valeur juridique elle a vraiment, mais il y a un certain nombre de tentatives en ce sens. Hein. Du fait de certaines propriétés, c'est toujours la même réflexion, vous voyez, derrière la dignité. Si on définit la dignité à partir de propriétés, alors il y a une dignité des animaux, puisqu'ils sont sensibles. Donc, ils ne sont ni pensants, ni vraiment libres, mais en tout cas, ils sont sensibles. Et donc, ça les distingue des plantes et des choses. Donc, il faut bien faire droit à cette distinction, à cette différence. Et puis, peut-être, mais là, on est encore dans la science-fiction, Dieu merci, une dignité des machines. Alors, donc c'est de la science-fiction, juste un petit exemple. Mais parce que je pense que malgré tout, on n'en est pas là, mais on est dans cette réflexion. Je pense qu'on a cette conception-là de la dignité qui peut mener à ce genre de dérive, à mon avis. Donc, c'est une série que je vous recommande de regarder, suédoise, qui s'appelle Real Humans, des vrais humains. Et donc, dans la série, nous avons, il n'y a pas que dans cette série, hein, y a aussi beaucoup de films, hein, qui montrent les robots comme une sorte d'espèce intermédiaire, hein, presque humaine. Donc on a des robots qui ressemblent parfaitement à des hommes, qui sont exploités par les hommes, utilisés comme des choses, d'accord ? Donc ils s'appellent les hubots, hein, dans la traduction française, donc humain-robot. Bon. Et donc ils ressemblent énormément à des hommes, sauf qu'ils doivent se recharger comme un portable, donc ils tirent eux-mêmes leurs prises, hein, bon. Bref, bon, je vous laisse, je détaille pas trop, mais il se trouve qu'un homme génial, voulant sauver son fils, lui a mis un mécanisme à l'intérieur, donc il a évité à son fils la mort en le transformant d'homme à hubo, vous comprenez ? Donc son fils est devenu une sorte d'hybride entre l'homme et la machine, donc on a déjà là un être qui a une dignité d'homme tout en ayant une vie artificielle de machine, et cet homme-là veut libérer les hubos. Donc, il les a programmés avec un logiciel qui fait que, petit à petit, ils deviennent sensibles, ils ont des sentiments, ils s'attachent. Si bien qu'on a dans la série, donc c'est vraiment philosophiquement mais extraordinaire, mais c'est assez déprimant aussi, on voit donc des couples se former entre un humain et un hubo. Et il y a un cas, un moment qui se pose, c'est que le hubo est avec sa compagne qui est une femme. Et le hubo est refusé à l'entrée de la boîte de nuit, et alors ça va mener à un litige, donc ils vont convoquer un avocat, et la phrase est là. Mais nous avons, nous aussi, notre dignité. D'accord ? Donc, sujet sensible, peut-être, plein de sentiments, etc., peut-être. Alors, si on arrive à faire des machines sensibles, voire intelligentes, voire libres, autonome en tout cas, est-ce que dans le fond, ces machines-là ne pourraient pas avoir une certaine prétention à la dignité ? Alors je vais arrêter le délire, hein, parce que vous voyez bien que je ne voudrais certainement pas terminer là. Je voulais simplement montrer donc qu'il y a peut-être une redéfinition à faire, et que définir la dignité à partir de facultés, ça me semble extrêmement périlleux, dans la mesure où donc c'est la dignité des facultés, non pas la dignité de l'homme du fait qu'il est homme. Que l'on met en valeur. Je finirai avec le traité de Jean-François Mathilly auquel je faisais référence au début de ma prise de parole. Donc, de l'indignation, il distingue deux indignations. La fausse indignation feinte, hein, qui est dans le fond une indignation qu'on va utiliser pour simplement faire valoir sa vision de l'homme ou sa vision de la dignité. Et puis, de l'autre côté, une vraie indignation. La véritable indignation, dit-il, c'est un affect, c'est un sentiment, et ce n'est pas un concept. La véritable indignation, elle vient du fond des tripes, quoi, si je peux le dire ainsi, devant une injustice réelle faite à un être humain du fait qu'il est un être humain, mais pas parce qu'il a telle ou telle ou telle faculté. Donc il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de définition pour savoir si l'individu devant lequel on s'indigne, et l'individu dont on pense qu'il mérite un respect, il n'y a pas de réflexion pour savoir s'il le mérite vraiment, ce respect-là. Vous voyez, l'indignation est un affect et pas un concept, dit-il. Nous nous indignons sans avoir préalablement défini les conditions de notre indignation. Ce qui m'amène à dire qu'en fait, la dignité, c'est l'impensable. La dignité humaine, c'est l'impensable. Nous avons une dignité parce que nous sommes mystérieux, incommensurables. Sinon, si on peut définir la dignité, il me semble qu'on tombe soit dans quelque chose de très réducteur, c'est-à-dire qu'on en arrive à cette idée que dans le fond, il y aurait des êtres dignes et des êtres indignes, des humains qui seraient vraiment des personnes et d'autres qui ne le seraient pas. Soit c'est cynique, c'est-à-dire qu'on parle de dignité, mais dans le fond, on ne sait même pas de quoi on parle. On n'a pas plus vraiment de notion de dignité. On utilise cette notion, comme le montre Jean-François Mattei, on s'indigne pour des raisons qui n'en sont pas. Et ainsi, je vais conclure en disant qu'il faut choisir son camp. Est-ce qu'on fait de la métaphysique ou est-ce qu'on n'en fait pas ? Il me semble, en fait, j'ai essayé de montrer en tout cas qu'on ne peut pas se libérer totalement d'un arrière-plan métaphysique ou théologique pour vraiment penser la notion de dignité humaine. Soit ça n'a pas de sens de parler de dignité humaine, ou alors ça a le sens qu'on lui donne, le sens qui varie selon les opinions des uns et des autres, selon le débat. Soit on donne un sens qu'on décide arbitrairement en sélectionnant telle ou telle faculté dont on dit qu'elle définisse la dignité. Et là, il me semble que cette définition de dignité humaine sera sélective, excluante. Et du coup, on utilisera la force pour l'imposer dans le combat politique. Hein, dignité contre dignité. C'est ma vision de la dignité contre la vôtre. À mon avis, c'est une impasse. Je m'engage un peu en le disant, mais je pense que c'est une impasse. Pour que la notion de dignité humaine ait encore un sens, il faut, à mon avis, accepter que ce sens nous dépasse. On n'est pas digne pour telle ou telle raison, on est digne du fait d'être un homme. Autrement dit, l'homme est digne parce qu'il est homme, parce qu'il est né homme. Quant à dire ce qu'est un homme, on peut dire un certain nombre de propriétés de l'homme, mais définir totalement, faire le tour de la question, conditionner la dignité humaine, cela me semble impossible. Et je finirai, pour faire plaisir à ses fans, par l'ouvrage de Rémi Brague, donc, qui a écrit il y a quelques années, enfin il y a 2-3 ans, il a publié un ouvrage qui s'appelle « Le propre de l'homme ». Et il montre qu'en fait, la question de la dignité n'est même plus la question importante. Avant de se poser la question d'une dignité de l'homme, c'est-à-dire la question éthique, qu'est-ce qu'on doit à l'homme du fait qu'il est un homme, comment lui assurer une vie digne, il faut d'abord se poser la question métaphysique, est-ce qu'une vie humaine vaut la peine d'être vécue ? Est-ce que ça vaut la peine qu'il y ait de l'homme plutôt qu'il n'y en ait pas ? Or, il montre que dans la pensée contemporaine, notamment l'écologie extrême, il y a un certain nombre de courants hein, qui montrent que l'homme n'est qu'un parasite, que la vie humaine ne vaut pas la peine d'être vécue, que dans le fond, ce qui fait qu'il y a une présence de l'homme sur Terre, c'est soit la malédiction, soit le pur hasard, mais que la vie n'est pas nécessairement bonne. Et ce que dit Brague, c'est que si on ne reconnaît pas la vie comme bonne, alors ça ne sert à rien de parler de dignité humaine. Parce que si on parle de dignité humaine, c'est parce que la vie de l'homme est reconnue comme bonne en soi. On ne sait pas pourquoi, c'est pour ça que je dis que c'est un horizon métaphysique qui nous dépasse, mais il faut postuler, dit Brague, que la vie humaine, le fait qu'il y ait des hommes plutôt qu'il n'y en ait pas, est une chose bonne en soi. Alors après, il y a un certain nombre de croyances qui peuvent nous amener à le penser, mais en tout cas, il faut au moins le postuler. C'est le fait même d'être né homme qui nous pousse à reconnaître la dignité, même handicapé, même faible, même mourant. Comment sinon reconnaître la dignité d'un homme faible, mourant, handicapé, si ce n'est pas uniquement parce qu'il est né homme et que c'est un bien d'être né homme plutôt que de n'être pas né. Autrement dit, Alors qu'on pense qu'aujourd'hui, une vie qui ne correspondrait pas à certains critères n'est pas une vie digne. Donc une vie qui ne serait peut-être pas une vie autonome, une vie puissante, une vie intelligente ne serait pas une vie digne. Ici, on peut réinterroger la notion de dignité et penser que c'est pas parce que c'est parce qu'il y a des hommes qu'on parle de dignité. Et ce n'est pas à partir d'une définition de la dignité qu'on doit penser qu'il faut qu'il y ait des hommes. Voilà, je répète, parce que c'est parce qu'il y a des hommes qu'on parle de dignité. Et non pas parce qu'on définit la dignité qu'ensuite on doit dire qu'il y aura des hommes. Voilà. Donc c'est l'homme qui fait la dignité, c'est pas la dignité qui fait l'homme.